Vous êtes sur RTL. RTL Midi, le 12h, Agnès Bonfillon, Pascal Pro.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi, 12h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'est avec vous Agnès Bonfillon, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. À la une, après Noël, le week-end du jour de l'an pourrait à son tour être menacé par la grève des contrôleurs à la SNCF. Une grève qui dépasse les syndicats, la direction et sur laquelle l'exécutif n'a pas de levier d'action. Mais alors, qui sont ces grévistes ? Nous allons tenter d'y voir plus clair. La question du jour concerne cette grève à la SNCF. Faudrait-il interdire les grèves les jours de départ en vacances ? On vous le demande.
Oui.
Car en Italie, par exemple, un tel mouvement est strictement interdit à cette époque.
C'est une bonne chose.
Une marche blanche a eu lieu ce matin à Vaux-en-Velin en hommage aux 10 victimes de l'incendie d'un immeuble. La semaine dernière, nous irons rejoindre notre journaliste sur place. Une image pour l'histoire. Volodymyr Zelensky en treillis à la Maison Blanche. Le déplacement du président ukrainien, très symbolique, mais pas seulement. Il repart avec des missiles patriotes, fleurons de la défense américaine.
Dans cette édition également, cette semaine, nous vous faisons découvrir les plus beaux marchés de Noël en région. C'est vous qui votez pour le grand gagnant sur le site RTL. Dans quelques minutes, visite guidée de celui d'Aubernay.
Et bien sûr, jusqu'à vendredi, nous parlons aussi table de Noël, sur ce qu'il y a dessus, mais aussi autour. Les sujets de discussion à éviter. Bertrand Perrier, spécialiste de l'art oratoire, sera notre invité. Gagnant ne rime pas forcément avec élégant. Les joueurs argentins ont eu des comportements plus que déplacés après leur victoire sur la France dimanche. Enfin, juste avant 13h, LVT Midi, Thomas Dutronc nous dira comment il a vécu cette belle année de tournée avec son célèbre papa Jacques.
Autant de sujets évidemment dont vous pourrez débattre. Hier, vous étiez très nombreux à nous appeler pour la grève avec des témoignages saisissants. On vous attend au 32-10 entre 13h et 14h30.
Et avant ça, la météo avec vous, Peggy Broche, bonjour.
Bonjour Agnès, bonjour à tous.
Qu'est-ce qui nous attend cet après-midi ?
Encore un temps pluvieux, mais toujours très doux. 17 degrés attendus à Toulouse cet après-midi.
Ah, merci, Peggy.
RTL Midi.
Et les températures, vous le disiez, Peggy, n'ont rien d'hivernal avec plus de 10 degrés d'écart. En 24 heures, le redout est exceptionnel. Cet après-midi, on attend jusqu'à 15 degrés à Marseille, 18 à Biarritz. En 22 décembre, ce n'est pas commun. À Toulouse, Valentin Larquet, difficile de croire qu'on est à deux jours du réveillon.
Ça m'effraie un petit peu quelque part parce que avec le réchauffement de la planète, on se dit que c'est quand même pas tout à fait normal, même si à Toulouse on a pu avoir des Noëls doux parfois, mais là c'est quand même vraiment pas normal. Je dois dire, la température est vraiment trop douce.
Il y a l'ambiance, les magasins, les décorations, quand même l'ambiance, mais c'est différent de ce qu'on peut trouver dans l'Est ou à Paris, ça c'est sûr. Hein.
Ce grand mois de mai, on va chercher les œufs bientôt. La magie du froid, ben, c'est quelque chose, et là, cette année on l'a pas.
Vous allez faire le repas de Noël en terrasse ?
Ah, peut-être. Peut-être l'apéro en tout cas.
Des propos recueillis par Valentin Larquier à Toulouse pour RTL.
RTL Midi.
Pas sûr que la douceur des températures fasse oublier la galère des usagers de la SNCF.
Oui, ce matin, le président Jean-Pierre Farandou était l'invité de RTL. Il a une nouvelle fois présenté ses excuses au nom de la SNCF. Il dit ne pas comprendre cette grève.
Je ne comprends pas cette grève. Il n'y a aucun appel à la grève d'aucun syndicat. C'est quand même très inédit. C'est une grève sans appel à la grève. Il y a quand même un truc là que j'arrive pas à comprendre.
Qui sont ceux qui font grève ? Vous pouvez répondre à cette question ? Ou finalement, c'est pas possible ?
Bah, c'est compliqué de répondre à votre question, parce que je vois qu'il y a une espèce de monsieur Olivier dont on connaît pas le nom, on connaît pas la figure, on sait que c'est un pseudo, il veut pas qu'on le voit. J'en appelle effectivement au sens des responsabilités des chefs de bord TGV en grève, il y en a un sur deux à peu près. Soyez conscients que quand vous êtes rentré à la SNCF, il faut accepter les obligations de service public. C'est une partie inhérente de notre métier.
Bruno Le Maire hausse le ton également ce matin. Il faut que le conflit soit résolu dans les prochaines heures, dit le ministre de l'économie. Sauf que le gouvernement peut faire des déclarations, William Galibert. Il n'a pas véritablement de levier d'action.
Oui, les réquisitions, ce n'est pas possible et les négociations, ça ne marche pas. Donc, quand vous avez renoncé à sauver Noël et que vous espérez simplement limiter la casse pour le 31, c'est quand même un grand sentiment d'impuissance qui domine. Et puis, il y a un signe qui ne trompe pas Agnès, c'est l'Élysée qui nous répète que le président est très en colère et qu'il a demandé à ce que la situation soit réglée. C'était exactement la même chose au moment des blocages dans les dépôts de carburant. Et ça veut dire que le gouvernement n'a plus beaucoup d'atouts à sortir de sa manche. Donc, il charge les grévistes et la direction de la SNCF en leur disant de se secouer pour avancer. Les Français ont très bien compris que nous ne sommes pas responsables, me disait un conseiller ministériel tout à l'heure. Mais au moment de la pagaille, la colère risque tout de même d'éclabousser le gouvernement.
William Galibert du service politique de RTL. Qui sont les grévistes? Vous l'avez entendu il y a un instant. Le président de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, avait du mal à répondre à cette question. Nous essaierons d'y voir plus clair tout à l'heure avec Pierre Herbulot.
À Blois, Chloé se trouve toujours dans le coma entre la vie et la mort. Chloé, c'est cette jeune femme qui a été battue par son ex-compagnon la semaine dernière alors qu'elle venait d'essayer de porter plainte.
Oui, plainte pour laquelle on lui a dit de revenir le lendemain. Dans cette affaire, on apprend que son agresseur a déjà été condamné pour violence conjugale. C'était il y a 7 ans. Là encore, question Guillaume Chiez, aurait-on pu éviter ce drame?
Alors, impossible de répondre avec certitude à cette question. En revanche, il y a eu un dysfonctionnement, c'est certain. Et c'est pour cela que le fonctionnaire qui a refusé de prendre la plainte de Chloé a été suspendu avant même la fin de l'enquête de l'IGPN. L'agresseur de la jeune femme est un multirécidiviste condamné pour usage de stupéfiants, port d'armes, condamné également en 2015 pour violence sur sa compagne de l'époque, 4 mois de prison avec sursis pour lui avoir jeté un téléphone au visage avant de lui asséner des coups de pied dans les côtes. À ce stade, on ne sait pas si le policier de l'accueil a même tenté de consulter les antécédents de l'agresseur quand il a eu Chloé face à lui. S'il ne l'a pas fait, il est en tort, mais s'il l'a fait, c'est encore pire, puisque l'agresseur présente un profil inquiétant, profil qui, à minima, aurait dû être une alerte pour le fonctionnaire qui n'aurait jamais dû laisser Chloé livrer à elle-même.
Et cet agresseur, il est où aujourd'hui?
Il est en détention.
Guillaume Chiez du service police-justice de RTL. Condamné au Népal pour plusieurs meurtres dans les années 70, Charles Sobhraj devrait sortir de prison tout à l'heure, revenir en France pour être opéré du cœur, surnommé le Serpent. Vous l'avez peut-être vu, son histoire a fait l'objet d'une série sur Netflix. On passe à la météo, Peggy, encore bien pluvieux, mais toujours très doux.
Et oui, cet après-midi, écoutez bien, jusqu'à 20 degrés à Perpignan. On est vraiment sur des températures printanières dans le sud. 18 à Toulon et Ajaccio, 17 à Montpellier et Bordeaux, 16 degrés à Nîmes, 15 à Cognac, 14 à Tours et Rennes, 13 à Paris, 12 à Lille et Reims et 11 degrés à Metz. Que des températures à deux chiffres, alors que nous sommes en hiver. Et vous l'avez dit Agnès, de la pluie, on a une perturbation qui arrive par l'ouest et qui va donner de bonnes pluies cet après-midi sur un large quart nord-ouest entre la Bretagne, la Normandie, l'Île-de-France en allant jusqu'au nord de la Nouvelle-Aquitaine avec des pluies soutenues du côté du Poitou et des Pays de la Loire. Sur l'ouest, les pluies seront plus éparses mais il y a encore beaucoup de vent comme ce matin entre 60 et 70 km/h. Et sur un tiers sud du pays, c'est un temps plus sec entre le sud de l'Aquitaine en allant jusqu'à la région PACA et la Corse, plus sec mais bien voilé sur l'ouest et plus lumineux sur l'est.
Merci beaucoup Peggy, à tout à l'heure.
RTL Midi, un jour chez vous.
Et chaque jour cette semaine, les correspondants RTL en région proposent leur coup de cœur du meilleur marché de Noël. C'est vous qui élisez le grand gagnant sur notre site rtl.fr.
Et pour la 4e étape aujourd'hui, Pascal, direction Aubernais dans le Bas-Rhin, et c'est avec Samuel Goldschmidt. Bonjour Samuel.
Bonjour Agnès, bonjour Pascal, bonjour à toutes et tous.
Et comme tous les jours, c'est parti, on vous suit.
Bienvenue dans cette cité vigneronne fortifiée, bienvenue entre la Halle au Blé Renaissance de 1553 et la Tour de la Chapelle de 1280. D'un côté de la ville, il y a les vignobles, de l'autre, la plaine céréalière. C'est de l'extrait d'essence d'Alsace, cette ville, et son marché de Noël, vanté par Daniel Irion, qui tient la taverne de la Halle au Blé.
C'est peut-être pas le meilleur, mais c'est le plus beau. La ville est très belle, elle est superbement illuminée, et puis il y a des bonnes choses ici. Il fait bon vivre. Ja, komme zu uns, mit Freude.
Et joyeux Noël.
Und gute Weihnachten.
Hop là, et ici le marché principal est une placette où les artisans se connaissent depuis 15-20 ans. Patricia tient le chalet au petit bonheur.
Alors nous on adore l'ambiance d'Aubernais, c'est un petit marché sympa. Il n'y a pas cet effet de foule qu'on a peut-être au marché de Noël à Strasbourg. Les gens reviennent toujours ici en disant que c'est un des plus beaux marchés de Noël d'Alsace.
Et ce sont les vignerons de la ville qui ont d'abord organisé les illuminations d'Aubernais et ont fait grandir ce marché. Pas trop, il y a le juste équilibre et l'accueil alsacien dans toute sa splendeur.
Et quand on vient au marché d'Aubernay, on rapporte quoi? Vous nous conseillez quoi, Samuel?
Ah, les suspensions en céramique de Muriel Gross et Harry pour décorer votre sapin, bien sûr. Elles sont fabriquées à Epfig, à 14 km d'Aubernay.
En fait, on a repris les traditions d'antan où on accrochait les bredelets au sapin, qu'on dégustait normalement qu'à Noël. Et nous, on a voulu les refaire avec toutes les formes différentes possibles, en plusieurs couleurs, et donc en céramique émaillée, en fait. Ça dure longtemps si on n'a pas de chat qui fait tomber le sapin.
Voilà, c'est durable, c'est joli et on ne les trouve qu'ici.
Et attention, grande question Samuel, Noël. Pourquoi vous pensez que le marché de Noël d'Aubernais est le plus joli ?
Ah bon, il y a d'autres marchés de Noël. Vous voterez évidemment Aubernais parce qu'il y a tout dans une unité de lieu. Pas besoin de s'épuiser à marcher des kilomètres. Pas d'agression commerciale, des gourmandises et des jolies choses. Sans foule oppressante. Et puis quand tous les autres marchés de Noël d'Alsace seront tristement en train de remballer, vous pourrez toujours venir ici à Aubernais jusqu'au 31 décembre. Et ça, c'est magique.
Eh bien merci Samuel Goldschmidt à Aubernais donc pour RTL. Reportage et photos à retrouver sur notre site rtl.fr où vous pouvez continuer à voter donc pour élire le plus beau marché de Noël.
Et à midi 10, changement de tendance, c'est désormais le marché de Barcarès dans les Pyrénées-Orientales qui est en tête, juste devant celui de Kaisersberg dans le Haut-Rhin. La bataille est rude, hein. Vous êtes près de 15 000 à avoir déjà voté.
Vous l'avez écouté pendant 5 semaines sur l'antenne d'RTL, il est dans le studio. Bonjour Morad Djabari.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
Dans un instant, cette question, la FIFA doit-elle et peut-elle sanctionner l'Argentine après les gestes déplacés? C'est vrai qu'ils sont choquants, ils sont d'ailleurs à la limite de la provocation raciste pour certains joueurs après leur titre de champion du monde. À tout de suite, on en parle.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Agnès Bonfillon. RTL Midi. Pascal Pro et Agnès Bonfillon.
La FIFA doit prendre ses responsabilités et au moins faire un rappel à l'ordre pour que ça n'arrive plus. Il y a des devoirs dans le football. Et pourtant, j'adore cette équipe d'Argentine, mais il y a des choses à respecter. Il y a une limite qu'on ne doit pas dépasser.
C'était hier sur RTL. Hervé Renard, le sélectionneur français de l'équipe d'Arabie Saoudite, estime que la FIFA doit prendre des sanctions envers les joueurs argentins, au moins faire un rappel à l'ordre. Bonjour Morad Djabari.
Bonjour Agnès, bonjour à tous.
Il est vrai que depuis leur victoire dimanche face à la France, l'attitude de certains joueurs pose question.
Oui, avec des insultes, des provocations de la part des joueurs argentins pendant les matchs et notamment la finale, des gestes obscènes d'Emiliano Martinez, le gardien de l'Argentine, à la remise de son prix de meilleur gardien. Il a posé ce trophée sur ses parties intimes lors de la fête dans les vestiaires où les Argentins ont fait une minute de silence pour, je cite, Mbappé qui est mort. C'est pas très fin, c'est pas très classe. Mbappé qui est pris pour cible par les joueurs argentins et supporters aussi. On est de l'ordre du chambrage, parfois limite raciste. On vise évidemment Mbappé parce que c'est le meilleur joueur. Et puis ces mots, ces scènes se sont répétées pendant les défilés à Buenos Aires.
Et c'est notamment le cas du gardien de but que tout le monde a vu depuis 48 heures faire cela.
Oui, c'est lui qui concentre tous les critiques. Emiliano Martinez est gardien à Aston Villa. C'est un professionnel en fait du chambrage. Il ne provoque pas uniquement les joueurs français, il le fait à chaque match en championnat en Angleterre ou au tir au but lors de la Coupe du Monde face aux Pays-Bas. Ça fait partie du personnage. Le poste de gardien, c'est un poste particulier où l'aspect psychologique est très important, c'est la guerre des nerfs.
Mais là, c'est pas chambré, parce que vous dites chambrage. Chambrage, ça se fait dans le football. Mais là, je vois des actes racistes vis-à-vis d'Mbappé.
Oui, bah c'est vrai que c'est plus que répréhensible. Et là, je parle vraiment du match d'Emiliano Martinez lors de la finale. C'était vraiment la guerre des nerfs lors de cette séance de pénalty où c'est pas vraiment bien comporté. Mais c'est pour prendre l'ascendant psychologique, rentrer dans la tête du joueur. Il faut préciser que Emiliano Martinez, c'est l'un des rares joueurs avec Messi à être allé consoler Kylian Mbappé à la fin du match. C'est une vidéo qu'on peut voir aussi sur les réseaux sociaux. Donc c'est un personnage qui s'est construit pour provoquer, déstabiliser en fait les joueurs adverses.
On a entendu il y a quelques instants Morad, Hervé Renard demander des sanctions de la part de la FIFA. Est-elle en mesure de le faire ?
Alors dans les règlements FIFA, il y a l'article 12 et 16 qui condamnent les mauvais comportements et désordre et sécurité dans un match. Mais aucune procédure n'a été ouverte de la part de la FIFA contre un joueur ou contre la fédération argentine. La FIFA peut agir uniquement dans l'enceinte d'un stade, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas sanctionner, elle n'est pas compétente à l'extérieur, à des milliers de kilomètres à Buenos Aires lors des défilés, tous ces gestes et ces insultes obscènes que l'on a vus. Par exemple, il y a une procédure qui a été ouverte lors du match Argentine-Pays-Bas où il y a eu beaucoup de débordements, il y a eu encore des provocations, des insultes. La FIFA a ouvert une procédure disciplinaire contre la fédération argentine, mais pas durant cette finale.
Il y a une tradition argentine du mauvais comportement sur le terrain. Tous les amateurs de foot le savent. Mais vous, Morad, qui étiez au Qatar pour RTL, sur le bord du terrain, que pouvez-vous nous dire du comportement des joueurs, mais également des supporters argentins ?
Alors les supporters, vous le disiez, le chambrage, c'est un peu culturel en Argentine. Argentine, mais aussi en Amérique du Sud. On peut trouver ça pas vraiment classe, mais ça fait partie de leur culture. C'est comme ça qu'ils vivent le football. Pour moi, de ce que j'ai vu, j'étais sur le bord du terrain lors du match, lors de cette finale. J'avais le virage, les supporters, les 50 000 supporters argentins derrière moi. C'était pendant cette Coupe du Monde le plus beau public, tout simplement. La plus belle ambiance. Ils ont une relation mystique avec Lionel Messi, avec les joueurs. Ils ont un amour, une passion inconditionnelle pour leur sélection. J'avais fait un reportage le matin de cette finale où certains Argentins ont vendu leur maison pour avoir de l'argent pour venir à cette Coupe du Monde, ont vendu des meubles, leur télé, leur voiture. Ils se sont sacrifiés. C'est des gens qui n'ont pas vraiment beaucoup d'argent, mais ils sont prêts à se serrer la ceinture, à se sacrifier pour aller voir leur sélection à l'autre bout du monde. C'est... qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce genre de provocation, c'est parfois ça dépasse un peu le cadre du chambrage, effectivement. C'est vraiment un public, c'est un pays de football, tout simplement.
Et c'est vrai qu'il y a notamment ce stade, la Bombonera.
Mais tous les stades argentins, le Monumental, tous les stades argentins, il y a une ambiance incroyable.
Où il y a un derby entre Boca et River Plate qui est unique au monde, disons-le. Donc ces supporters-là, effectivement, ont une particularité. Merci beaucoup, Morad. C'était bien votre Coupe du Monde. En tout cas, c'était bien de vous écouter.
Merci.
C'était la première fois que vous faisiez une Coupe du Monde.
C'était ma première, effectivement.
Et ça sera peut-être pas la dernière.
Ouais, j'espère, je croise les doigts.
Non, mais c'était bien vraiment de vous écouter. Il est 12h16. Qu'est-ce que nous faisons? Une pause?
Oui, une pause. Et ensuite, nous parlerons des sujets dont il ne faut pas parler.
Ah bon?
Ah oui, vous allez tout savoir à Noël.
Il y a des choses dont il ne faut pas parler.
Il paraît.
À tout de suite.
RTL, pour tout comprendre de l'actualité. RTL Midi, votre vie.
Non, mais je vais pas entendre déconner toute ma vie. Recevoir des sons imbéciles jusqu'à la fin des temps.
Écoute, François.
Ta gueule, toi. Tu m'emmerdes, toi, je t'emmerde. Je vous emmerde tous, un bout de dimanche, petit goût à la con. Merde.
Scène culte de Vincent, François, Paul et les autres, de Claude Sauté. C'est un exemple de repas.
Michel
que
Piccoli.
L'on... Ah bah, Michel Piccoli avec une colère immense.
Et il dit « Je t'emmerde » à Yves Montand. Je t'emmerde, toi.
Alors, pour éviter que notre réveillon de Noël se transforme en pugilat, nous allons voir un petit peu s'il y a des sujets à éviter. Et nous allons en parler avec vous, Bertrand Perrier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocat, auteur de plusieurs ouvrages sur l'éloquence et la rhétorique. Y a-t-il véritablement des sujets tabous à Noël ?
Oui, alors il y a des sujets tabous, l'éducation des enfants, les relations personnelles entre les membres de la famille. Mais pour le reste, non, il y a des façons tabous de l'aborder. Mmh. Et l'extrait que vous avez diffusé est totalement iconique de cela. C'est-à-dire qu'on quitte le terrain des idées pour s'attaquer à la personne. Mmh. Et là, c'est vraiment le point de non-retour. C'est-à-dire qu'on attaque la personne, non pas les idées. Et finalement, la famille, c'est le pire lieu pour débattre. Parce que inévitablement, le débat d'idées est pollué par des considérations personnelles. Mais donc c'est vraiment le pire endroit, et en plus à Noël.
Vous dites l'éducation des enfants, c'est-à-dire que si un petit se tient mal à table, on ne dit rien ?
Bah oui, parce que là, c'est la chair de sa chair, évidemment. Et donc, si vous dites à votre cousine, t'as vu comment t'as élevé ton gosse, c'est insupportable, bah, elle est attaquée, évidemment, dans sa personnalité, dans ce qu'elle a de plus intime, à savoir sa relation filiale. Et là, évidemment, c'est le... Alors là encore, c'est l'un des conseils à donner, c'est éviter le point de non-retour. C'est-à-dire le mot qui, chez l'autre, va déclencher immédiatement la guerre nucléaire et l'envie de ne plus se revoir jamais.
Mais si vous me permettez, il y a pire que ça. Parce que dans les familles, il y a des très grandes différences de niveau de vie. Ce qu'on ne retrouve pas généralement,
aussi, vous avez raison. Mais
ce qu'on ne retrouve pas forcément avec ses amis. Mmh. Donc si vous avez un beau-frère qui explique qu'il vient d'acheter une voiture à 100 000 euros et qu'il dit ça face à un autre beau-frère qui est au chômage, il ne va peut-être pas déclencher la guerre nucléaire, mais il y aura un malaise ou une indélicatesse qui n'est pas convenable. Et ces différences-là me paraissent très importantes.
Alors c'est absolument essentiel, parce que dans un débat, précisément, quand on débat véritablement, on choisit avec qui on débat. Or, on ne choisit pas sa famille, l'adage est bien connu. Et donc, on est obligé, une fois par an au moins, de côtoyer des gens avec lesquels on n'a probablement rien de commun, si ce n'est le sang.
Oui.
Et donc, on est obligé de débattre avec eux, alors qu'on n'en a pas nécessairement envie. Et donc, effectivement, la question du niveau de revenu est évidemment avec les idées politiques, mais je crois que au fond, ce qui est très important dans ce débat qui va nécessairement avoir lieu le 24 décembre, c'est de bien distinguer les idées des personnes et de ne pas assimiler l'un à l'autre. Si vous dites qu'on n'est pas d'accord, on peut ne pas être d'accord, mais on ne peut pas d'abord agresser quelqu'un verbalement. Faites attention au niveau sonore de ce que vous dites. Il y a façon de dire, il n'y a pas que le langage.
Il y a le non-verbal aussi.
Il y a le non-verbal et ce qu'on appelle le paraverbal, c'est-à-dire les inflexions de la voix. Si vous dites, je suis pas d'accord, évidemment. Mmh. Et si vous dites, non, je suis pas d'accord, je voudrais dire autre chose. Et là, le débat peut continuer. Ce qui est vraiment important, c'est de ne pas passer un point de non-retour où de toute façon, on ne se reverra plus. Ce qui est essentiel, c'est pas nécessairement de débattre. On n'est pas obligé de débattre.
Mais
au
oui,
réveillon.
On n'est pas obligé de parler.
On n'est pas obligé de se parler.
Non, mais repas,
en tout cas, on est dans un lien de famille. Ce qui est important de préserver, c'est le lien de famille.
Mais bien sûr.
Le reste n'a pas beaucoup d'importance. Vous n'allez pas convaincre une personne que de toute façon vous n'aimez pas, que vous voyez par habitude, que vous avez raison sur le vaccin, sur l'ISF, ce que vous voulez. C'est bien pas sûr. Grave. Il n'y a pas une obligation de débattre. Mmh. On s'en fait une montagne, mais on peut parler de banalité. En fait, le point, c'est un choix. Est-ce que je vais choisir plutôt de convaincre la tante que je vois une fois l'an que ma vision sur le vaccin est bonne, ou est-ce que je vais prendre le risque pour la convaincre de faire exploser la famille? C'est un choix. Ben, le choix est assez vite fait. Préservez votre famille.
Mais vous avez tellement raison, mais un peu d'intelligence ne nuit pas.
Ben voilà.
Même le soir de Noël.
Et l'intelligence, c'est aussi l'intelligence de ne pas s'échauffer et de se dire, à un moment, il y a un petit gendarme qui s'allume dans ma tête. Et je me dis, non, là vraiment, cette phrase-là, c'est pas possible. Parce que non seulement je vais pas gagner le débat parce que c'est pas l'idée, et en plus, on reviendra pas l'année prochaine.
Et justement, si l'on sent que ça dérape, est-ce qu'il y a une solution un petit peu pour sortir?
Alors moi, je crois qu'il y a évidemment la soupape de sécurité, c'est, attends, là, on est en train, tous les deux...
Je vais m'en servir un verre.
Oui, alors on peut se resservir un verre, mais d'eau, parce que là aussi, évidemment, il y a la question du temps, on est tous fatigués, on est tous lassés, on a tous un coup dans le nez, enfin...
Attendez, non, mais...
Bon, pas tous, dire, c'est
non, voilà. Mais dire, par exemple, ta femme a pris un coup de vieux, Jean-Louis.
C'est tragique. Pas. Ça, oui, non, alors il y a pire, il y a son lifting est raté.
Voilà, il y a longtemps,
ça, c'est catastrophique.
Pas vu depuis un an. Oui. Qu'est-ce que t'as changé?
Oui, on dirait pas le même, oui.
Voilà.
Non, mais voilà.
Ça, ça se dit pas.
Non, ça se dit pas parce que, en réalité, là encore, vous assimilez des idées à la personne. On peut débattre d'idées, on ne peut pas débattre de personne. Et ça, c'est vraiment la ligne jaune, je crois. On ne débat pas des personnes.
Quand vous dites on est un petit peu fatigué, on est dans un état un petit peu peut-être un peu plus fébrile, est-ce que Noël est un moment aussi où l'on a plus d'occasion de se disputer? Il y a des choses qui rejaillissent.
C'est-à-dire qu'on se voit déjà.
Oui, déjà on se voit, puis il y a mille occasions, c'est la rareté d'abord, on se voit pas souvent, il y a le nombre, il y a une excitation, il y a les cadeaux qui renvoient à un imaginaire pécuniaire également.
Cadeaux, il faut faire attention, parce que là on revient à l'argent. S'il y a des différences importantes dans les familles, et ça peut arriver, celui qui est le plus fortuné doit faire attention que le cadeau qu'il donne ce soir-là à sa femme ne soit pas disproportionné pour pas humilier les autres.
Bien sûr, il faut pas que ce soit gênant, et puis vous avez non seulement des rencontres de fortune différentes, mais de générations différentes. Et donc, chacun est obligé, parce que c'est Noël, de composer. Et donc, le débat, c'est aussi composer.
En fait,
c'est accepter de ne pas...
Tout ça, c'est dans le non-dit, quand même. Il n'y a pas de drame le soir de Noël. Vous, dans votre famille, vous avez eu un drame?
Non, pas véritablement, mais oui. Par exemple, j'exerce le métier d'avocat, mon cousin est gendarme.
Oui.
Inévitablement, parfois, on a des débats vifs, parce qu'on n'exerce pas le même métier, on n'a pas les mêmes préoccupations. Je l'aime beaucoup. Je le salue parce que je sais qu'il vous aime beaucoup, Pascal, également.
Oui.
Et qu'en plus là il a la jambe dans le plâtre, donc c'est une deuxième occasion de le saluer. Mais voilà, on a parfois des sujets de discorde, et il faut peut-être aussi bypasser les sujets de discorde. C'est pas grave qu'on n'ait pas parlé
de la NUPES,
qu'on n'ait pas parlé du vaccin, qu'on n'ait pas parlé du confinement, qu'on n'ait pas parlé d'Emmanuel Macron, qui est probablement là aussi un point de fixation terrible. On peut aussi se parler de comment tu vas, est-ce que tes enfants vont bien, est-ce que tu es en bonne santé. Ça suffit à mettre une bonne ambiance dans une famille.
Et vous,
Agnès, ça s'est toujours bien passé chez vous les soirs de Noël?
Oui, plutôt. Nous, c'est le midi, le lendemain. On ne fête pas le soir. Vous savez, en Provence, le 24, on ne fête pas.
C'est pas vrai.
Mais oui, mais ce sera un autre sujet.
Non, et quand sont les 13 desserts?
C'est le 25 à midi.
Ah, d'accord.
Je voulais savoir s'il y avait des sujets, selon vous, qui servent à meubler, parce qu'il peut y avoir aussi un repas un petit peu trop silencieux.
Oui, moi, ce qui meuble, évidemment, c'est les sujets généraux sur comment va un tel, les études d'un tel, le pays où on vit, la ville. Là, il va y avoir un sujet, évidemment, ça va être la grève. Alors là, évidemment, la grève de la SNCF.
Donc ça, c'est un sujet consensuel.
Quelque chose de absolument polarisant. Oui. Alors là, évidemment, on va trouver une sorte de bouc émissaire qui va permettre de se rassembler, parce que quand même,
alors,
c'est ça qui
Jean-Louis,
et avec la célèbre notion de prise d'otage, qui est le grand mantra
la
grève,
prise
c'est vraiment le mot magique. Non, mais en fait, je pense que la clé de tout, c'est de se mettre à la place de l'autre. C'est-à-dire, qu'est-ce que je ne pourrais pas entendre si j'étais lui? Qu'est-ce qui est le point où vraiment on ne se reverra pas et personne n'y a intérêt. C'est idiot, mais c'est la magie de Noël, c'est la fête de Noël. On peut quand même passer une soirée, parfois deux, sans s'écharper.
Et vous avez remarqué également que Noël est l'endroit, le moment où on parle des vieilles rancunes ou des vieilles affaires, ce qui s'est passé en 69, par exemple.
Hein, je voulais te passé en 69.
Ou en 73, voyez, on exhume oui, parfois oui,
mais parce que
rancunes recuites.
On n'a pas choisi cette soirée, on l'a subi. On subit la date, on subit les gens, on subit le menu, on subit tout.
Non, écoutez, si, c'est un plaisir quand
c'est
même.
C'est pas
un,
c'est quoi, pas
moi,
un
dans
choix.
Ma famille, c'était un plaisir.
Quand vous invitez des amis chez vous, vous les avez choisis. À Noël, vous ne choisissez pas qui est autour de la table, c'est les liens du sang. Et donc, il faut y mettre du sien. Et je crois vraiment que les trois choses comptent. C'est-à-dire le langage du corps, attention à la voix et attention aux mots qu'on emploie. C'est les trois choses qui me paraissent essentielles.
Donc le mieux, c'est on dit rien.
Si, on reste dans une banalité de bonne aloi. Et on peut parler de choses, mais en s'interdisant de dire le mot de trop.
Bon, bah écoutez, c'est parfait. Merci beaucoup. On demandera tout à l'heure à Damien, à Sophie Orange qui est là, comment ça se passe dans leur famille, à monsieur Boubouk, à monsieur Tessier. Et puis ils répondront s'ils veulent. Hein.
Ils ont le
devoir de réserve. Qu'est-ce qui se passe, Damien Béchiot?
Nous, on a hâte de répondre, Pascal.
Bien sûr. Mais vous avez trouvé votre train pour Bordeaux ou pas?
Tout à fait. J'ai réussi à en retrouver un.
Ah,
deux
heures
plus tard.
Tout n'est pas perdu. Prix. Damien Béchiot qui réalise cette émission. Il est 12h28. À tout de suite.
Votre avis compte.
Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
50 centimes la minute. RTL, s'informer ensemble.
Bonjour à tous si vous nous rejoignez. Merci de rester avec nous si vous étiez déjà à l'écoute de ce RTL midi, il est 12h30.
Midi.
Le 12-30,
Pascal Pro et Agnès Bonfillon.
Et donc, l'heure de la grande édition d'Agnès Bonfillon.
À la une, 500 personnes réunies ce matin à Vaux-en-Velin, une semaine après l'incendie qui a tué 10 personnes, dont 4 enfants, une foule émue et recueillie. Nous serons sur place dès le début de ce journal. Les excuses du patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, était ce matin l'invité de RTL. Le gouvernement, lui, met la pression sur les grévistes. À l'instant, à la sortie du Conseil des ministres, Olivier Véran leur demande de renoncer et d'entendre la demande légitime des Français. Sachez qu'en Italie, ce mouvement serait impossible. La grève est tout simplement interdite pendant les vacances de Noël. C'est notre question du jour. Faudrait-il interdire les grèves, les jours de départ, selon vous? Les Américains vont fournir aux Ukrainiens un système anti-aérien ultra performant. Tous les détails dans un instant. Et puis Messi M. Paris, le nouveau champion du monde, a très envie de prolonger son contrat avec le PSG.
À partir de 13h dans les auditeurs, on a la parole 32-10 pour dialoguer jusqu'à 14h30. Et je l'ai dit tout à l'heure, je le redis, on a beaucoup parlé de la grève avec des témoignages tout à fait saisissants.
Et puis votre rendez-vous culture avec Steven Bellery, LVT Midi, ce sera à 12h50. La fin de la tournée des Dutron, père et fils. Thomas Dutron nous livrera ses impressions. La météo à la fin du journal. Mais Peggy, déjà un petit indice.
C'est encore bien pluvieux aujourd'hui, mais toujours très doux.
Jusqu'à 13h.
RTL Midi.
Des dizaines de personnes réunies ce matin à Vaux-en-Velin pour une marche blanche en hommage aux 10 victimes de l'incendie d'un immeuble. La nuit prochaine, cela fera une semaine que 6 adultes et 4 enfants ont été pris au piège. Vétusté des locaux, omniprésence de dealers dans le hall, on ne connaît toujours pas l'origine exacte du sinistre. En tout cas, les familles, les voisins, tout le quartier reste profondément choqué, Bertrand Frachon.
Près de 500 personnes ont participé à cette marche blanche, partie de l'hôtel de ville pour rejoindre l'immeuble où s'est noué le drame. Des Vaudais solidaires et très émus.
C'est pour les accompagner dans leur douleur. Et puis on connaît les familles de vue, donc la présence, voilà, ça montre un peu qu'on est tous ensemble.
Eh bien écoutez, c'est pour soutenir toutes ces personnes qui sont décédées. Puis plus les enfants, c'est ce qui nous touche le plus. On a quand même des enfants, des petits-enfants. Alors c'est normal qu'on soit touché quand même pour ça et puis pour leur rendre hommage.
J'espère que ça fera prendre conscience sur un plan, on va dire, général, au niveau des collectivités sur toute la France, qu'il faut peut-être revoir les aménagements au niveau des habitations, dans des logements qui ne sont pas forcément adaptés et convenables.
Des bouquets de fleurs et des ballons blancs noms ont été déposés devant l'immeuble avant de respecter une minute de silence. La maire de la commune était présente, mais elle n'a pas souhaité s'exprimer. Une chose est sûre, ces fêtes de fin d'année qui approchent ont surtout ici le goût des larmes.
Bertrand Frachon à Vaux-en-Velin pour RTL. Ablois, l'agresseur de la jeune femme qui est toujours entre la vie et la mort, a déjà été condamné il y a 7 ans pour violence conjugale. Chloé, on le rappelle, avait tenté de porter plainte. Le policier lui avait demandé de revenir le lendemain. Il a été suspendu.
RTL Midi.
200 000 voyageurs de la SNCF resteront à quai pour ce week-end de Noël. Un train sur trois est supprimé demain. 2 sur 5 samedi et dimanche, c'est plus que ce qu'on avait imaginé au départ.
Pas de syndicat à l'origine du mouvement, mais un collectif de contrôleurs qui veulent un salaire plus élevé, une meilleure évolution de carrière. Le gouvernement met la pression sur le groupe ferroviaire. Ce matin, Bruno Le Maire demande à la SNCF de trouver une solution dans les prochaines heures. Pour le ministre des Transports, Clément Beaune, cette grève n'est pas justifiée. Et dernier avertissement, à l'instant, à la sortie du Conseil des ministres, avec Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement.
Nous demandons à l'ensemble des personnes qui ont annoncé vouloir faire grève de renoncer à cette grève et d'entendre la demande légitime des Français de pouvoir retrouver leur famille dans de bonnes conditions. Bien sûr, l'ensemble du gouvernement est totalement mobilisé. D'abord pour accentuer le dialogue social à la SNCF, mais nous rappelons que nous avons dans un passé récent effacé totalement la dette de la SNCF et que des hausses de salaires conséquentes ont déjà été annoncées et pour certaines d'entre elles mises en place. Nous sommes également mobilisés pour identifier toutes les solutions efficaces pour que les voyageurs qui sont privés de leur train puissent quand même rejoindre leur famille.
Olivier Véran, des propos recueillis par William Galibert pour RTL.
Une grève entre le 24 et le 26 décembre, la France est-elle un cas unique en son genre? En Italie, par exemple, une telle situation sera impossible, car tout simplement, Sophie Jousselin, bonjour et bonjour. Merci d'être avec nous. Les grèves, durant les vacances de Noël, sont interdites.
Oui, depuis une loi votée en 1990, elle interdit les grèves dans les transports privés et publics, donc train, bus, métro et taxi, à certaines dates. Parmi ces dates, donc, la période des fêtes, et c'est précis, entre le 19 décembre et le 7 janvier, donc en Italie, pas d'inquiétude pour le réveillon de Noël et de la Saint-Sylvestre. La loi protège les déplacements des Italiens à d'autres moments de l'année, propice aux grandes transhumances familiales. La période de Pâques, à partir du jeudi avant la fête religieuse et pendant une semaine, aussi 4 jours autour de la fête nationale italienne, fin avril, début mai, fin juin, début juillet, au moment des départs en vacances en été, et pendant le mois d'août jusqu'à la rentrée scolaire, et enfin la Toussaint, s'ajoute aussi 3 jours avant et après les jours d'élection. En dehors de ces périodes très précises, le reste de l'année, la grève est autorisée dans les transports italiens, mais ils doivent fonctionner normalement 3 heures le matin et 3 heures le soir pendant les heures de pointe.
Sophie Jousselin du service étranger de RTL.
Nouvelle tribune dans le journal Le Monde, signée par 5000 soignants. Ils soulignent l'état catastrophique de nos hôpitaux.
Et ce n'est pas la première fois qu'ils le font, qu'ils tentent d'alerter les autorités régulièrement. Les conséquences sont visibles sur le terrain. Dernier exemple en date, au CHU de Caen, dès demain, il ne sera plus possible de se rendre aux urgences sans être passé par le 15 avant. Cette situation doit durer au minimum 2 semaines. Écoutez Fabien Paris, il est membre du collectif Interurgence.
C'est devenu un grand classique. Lorsqu'il y a des difficultés d'afflux massif de patients, ou en tout cas un peu plus important que d'habitude dans des services d'urgence, soit on restreint l'accès aux urgences, ou alors il y a aussi des services d'urgence qui ferment. Par exemple, j'ai vu ce matin qu'une maternité allait fermer pendant 3 jours dans la Somme. Dans mon département, il y a environ 150 à 200 lits qui vont fermer là pendant la période des fêtes. Donc à partir du moment où on n'a pas suffisamment de professionnels, on ferme des lits maintenant. Partout en France, c'est la même chose. Et au fur et à mesure, les conditions de travail ne s'amélioreront pas. D'être rappelé sans arrêt sur nos congés, de voir des formations annulées. On atteint aussi le point de non-retour et on se dit rester, c'est aussi cautionner ce qui se passe.
Des propos recueillis par Agathe Londé pour RTL.
RTL Midi.
Reçu en treillis au Congrès et à la Maison-Blanche, les images du président ukrainien aux États-Unis resteront dans les livres d'histoire.
C'est la première fois que Volodymyr Zelensky sortait de son pays depuis le début de la guerre. Il repart de Washington avec une aide très concrètes, des missiles patriotes, le fleuron de la défense américaine. Brice Dugénie, bonjour à vous.
Bonjour.
Concrètement, quelle est cette arme ?
Alors, le système Patriot, c'est un missile associé à un radar de défense antiaérienne. Son rôle, c'est de détecter un missile ennemi qui entre au-dessus du territoire et d'aller le détruire avant qu'il ne vienne toucher le sol et donc provoquer des destructions. C'est une arme qui est fabriquée aux États-Unis, qui est utilisée par l'armée américaine et elle est considérée comme l'une des meilleures au monde pour assurer cette mission. Le Patriot peut détecter et détruire un missile ennemi à plus de 150 km.
Est-ce que ça peut faire basculer la guerre ?
Alors, non, ça ne fera pas basculer le conflit parce que le Patriot, c'est un missile de défense et uniquement de défense. Or, pour gagner une guerre, il faut aussi attaquer, contre-attaquer, là, avec d'autres équipements directement sur le terrain. Donc, ça ne changera pas tout. Mais le Patriot va améliorer la protection du territoire ukrainien et ça va donner un avantage à Kiev, même si, attention, le Patriot ne pourra pas couvrir l'intégralité du territoire. Mais il sera utilisé, on pense, autour des lieux les plus stratégiques, les plus sensibles. On pense, bien sûr, aux équipements énergétiques qui ont été détruits par les Russes ces derniers mois.
Et Zelensky est venu à Noël devant le Congrès. C'est important de le dire parce que le Congrès, il va changer. Là, il avait face à lui des démocrates qui sont plutôt pro-Zelensky. Alors que s'il vient dans 15 jours, il n'aurait peut-être pas eu le même accueil avec les républicains.
L'agenda était calculé. Ça ne doit rien au hasard, Pascal. Ça ne vous a pas échappé.
Brice Dugénie du service étranger de RTL.
Lionel Messi, un dieu vivant pour les Argentins, surtout depuis la victoire en Coupe du Monde dimanche.
Et pourtant, l'attaquant se verrait bien vivre encore un peu à Paris, sous les couleurs du PSG, évidemment. Une prolongation de contrat est très, très possible, Jean-Michel Rascol.
Oui, les échanges depuis 3 mois ont été réguliers entre les dirigeants du Paris Saint-Germain et le père du nouveau champion du monde. Les grandes lignes d'une prolongation ont été dessinées, même complétées pendant la Coupe du Monde. L'accord de principe sera probablement finalisé dès le retour de Messi à Paris. Si sa première année avec le PSG a été peu convaincante, l'Argentin forme désormais avec Mbappé et Neymar l'attaque la plus prestigieuse de l'histoire du football, avec la perspective, à titre personnel, de soulever pour la 5e fois la Ligue des Champions. Son salaire est estimé à 41 millions bruts par an. Aucun autre club ne semble en mesure de rivaliser sur ce plan. Et puis la situation de Ronaldo, star planétaire sans club, l'a sans doute fait réfléchir. Mais un autre élément, et non des moindres, engage Lionel Messi à prolonger son expérience parisienne. Son épouse, Antonella, ses 3 enfants, Thiago, Matteo, Ciro, apprécient la vie à Paris comme l'hôtel particulier mis à leur disposition à l'écart des projecteurs. Un repère ciel et blanc. À Neuilly-sur-Seine.
Jean-Michel Rascol du service des sports de RTL. Dernière ligne droite pour les cadeaux de Noël. Ça ne vous a pas échappé, Pascal. Soit dans
Pourquoi
les magasins, soit pour les livraisons. Un tout petit peu. On réglera nos comptes après. On vous a fait vivre dans la matinale l'arrivée des colis du monde entier dans le hub DHL à Roissy. C'était avec vous ce matin, Vincent Derosier. Et avant la livraison sous le sapin, il y a encore d'autres étapes, hein, Vincent.
Oui, c'est une course contre la montre qui débute. Les colis triés à Roissy sont envoyés vers une trentaine d'agences qu'on appelle les agences du dernier kilomètre. Et Virginie Delestre supervise celle de Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine, où des dizaines de camionnettes jaunes et rouges sont alignées.
Donc on a tous nos camions qui sont à quai. Nos trieurs ont commencé ce matin dès 6h à précharger en fait les véhicules des chauffeurs. Il faut absolument qu'ils arrivent avec un camion vide ce soir, parce que demain, il va falloir le re-remplir, parce qu'encore une fois, demain, c'est vraiment la dernière journée.
La dernière journée pour être livré avant Noël. Chaque livreur a donc une 60aine de clients à livrer lors de sa tournée qui débute à 9h pétante. Laurent, lui, part à Paris. Et attention, pour gagner du temps, les colis sont livrés selon un ordre bien précis.
On apprend le sens des rues par cœur quand le client nous appelle et nous dit « Écoutez, est-ce que vous pouvez passer un peu plus tôt parce qu'on doit s'en aller ? On part en famille. » Bah voilà, aller livrer le client le plus rapidement possible justement pour qu'il bah, puisse avoir ses cadeaux de Noël avant qu'il s'en aille. Quoi.
Et si vous avez un peu de mémoire pour apprendre le nom des rues, que vous aimez le contact avec les gens et que vous êtes organisé, sachez que DHL recrute en ce moment. Voilà, j'ai fait l'agent Pôle emploi.
C'est votre cas. C'est votre cas, non ?
D'être organisé. Il est possible que je donne des cadeaux dans des rues différentes. C'est ça que vous voulez dire, que mon organisation ne serait peut-être pas parfaite. C'est ce que vous sous-entendez.
Je n'oserais pas. Peggy Broche, on se prépare un Noël au balcon, c'est ça ?
Oui, mais vraiment, parce que franchement, les températures sont extrêmement douces. On est largement au-dessus des normales.
c'est surtout cette année.
D'où l'expression Noël au balcon, pas oui. Cotisons. C'est, là, c'est, on le dit régulièrement.
Mais là, c'est vrai que les températures sont remarquables. Ça va jusqu'à 20 cet après-midi à Biarritz. 18 degrés à Ajaccio, 17 à Bordeaux et à Tarbes, 16 degrés à Montauban, 15 à Nice, 14 à Lyon, ainsi qu'à Nantes, 13 degrés à Paris et Limoges, 12 à Dijon et 11 à Nancy. Alors côté ciel, c'est un temps plutôt automnal hein, sur les deux tiers nord du pays, avec cette perturbation qui s'enfonce par l'ouest et qui progresse vers l'est entre la Bretagne, la Gironde, le Limousin, l'Île-de-France et la Normandie cet après-midi, avec du vent également. Et sur l'ouest, on a des averses plus éparses. Et sur un tiers sud du pays, c'est un temps sec, voilé dans le sud-ouest et plus lumineux dans le sud-est.
Merci Peggy, à tout à l'heure.
Les trains, on va en parler, la grève, ça fait évidemment causer notamment nos auditeurs. Ce n'est pas convenable, on va le dire comme ça. A tout de suite.
Pascal Pro, Agnès Bonfillon.
RTL midi jusqu'à 13h.
Passez de bonnes fêtes de fin d'année avec RTL.
RTL, vivre ensemble.
Agnès Bonfillon, Pascal Pro,
RTL Midi.
Deux trains sur cinq annulés samedi et dimanche. D'ailleurs, c'est plus que ce qu'on avait imaginé. Un sur trois dès demain. On reparle de la mobilisation à la SNCF et notamment des grévistes.
Ce qui est assez inédit avec ce mouvement, c'est qu'il n'est pas imputable aux syndicats. Écoutez ce que disait ce matin Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SNCF, sur notre antenne au micro d'Yves Calvi.
Je ne comprends pas cette grève. Il n'y a aucun appel à la grève d'aucun syndicat. C'est quand même très inédit. C'est une grève sans appel à la grève. Il y a quand même un truc là que j'arrive pas à comprendre.
Qui sont ceux qui font grève ?
Bah c'est compliqué de répondre à votre question parce que je vois qu'il y a une espèce de monsieur Olivier dont on connaît pas le nom, on connaît pas la figure, on sait que c'est un pseudo, il veut pas qu'on le voit.
Pierre Herbulot du service économie nous a rejoint. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Qu'est-ce que veut dire exactement Jean-Pierre Farandou ?
Alors Olivier, c'est le porte-parole du collectif national des contrôleurs qui est à l'origine du mouvement. C'est ça qui est assez inédit puisque la grève part de ce simple collectif sur les réseaux sociaux, affilié à aucun syndicat et qui se veut apolitique. 3500 salariés du groupe sont rassemblés sous cette bannière.
On est sûr
bannière.
Des 3500 parce que j'entends ce chiffre depuis ce matin. Il sort d'où ce chiffre ?
C'est le chiffre sur Facebook quand vous allez voir le nombre de membres. Après, on ne peut pas aller voir le CV de chaque membre du collectif. Ce qu'on sait, c'est qu'il est assez récent puisqu'il a été créé au mois de septembre. Ce que disent ces membres dans les médias quand ils prennent la parole, c'est qu'ils sont ouverts au dialogue et donc pas radicaux. Après, puisqu'ils ne sont pas syndiqués, ils ne peuvent techniquement pas vraiment être reçus par la direction, mais ils attendent des organisations représentatives plus traditionnelles qu'elles jouent finalement le rôle de porte-parole. Pour l'instant, ça fonctionne puisque la CGT et Sudrail n'appellent pas officiellement à la grève, mais finalement ont maintenu leur préavis pour protéger les grévistes.
Donc les syndicats, Pierre, si on comprend bien, n'ont pas vraiment la main sur leur propre grève.
Bah, en tout cas, ils semblent complètement dépassés. D'ailleurs, on ne les entend pas tellement, hein, la CGT et les autres, un peu comme au moment des Gilets jaunes. C'est pour ça qu'on fait le parallèle. À l'époque, les syndicats soutenaient le mouvement des Gilets jaunes, mais Philippe Martinez, par exemple, pour la CGT, n'était pas reçu en rockstar dans les manifs, loin de là. Bien là, c'est pareil. Le collectif fait pression, les syndicats suivent. Alors, on parlait du chiffre de 3500 membres. S'il est avéré, c'est sûr que ça pèse dans les organisations et dans les élections internes pour élire les syndicats. Alors, pour bien vous rendre compte, sachez qu'il y a quelques jours, la direction de la SNCF et les syndicats se sont plus ou moins entendus sur un accord. Mais derrière, Sudrail et la CFDT ont accepté de soumettre à la décision de ce fameux accord sur le groupe Facebook, le fameux collectif national des contrôleurs. Eh bien, le résultat, on le connaît, c'est le bras de fer et le maintien de la grève.
Qui est anonyme. Nous sommes d'accord que tout ce collectif est absolument anonyme.
C'est quasiment le principe des réseaux sociaux. C'est-à-dire, voilà,
c'est un pseudo.
Absolument.
C'est ce que disait M. Farandou, il ne sait pas qui c'est.
Non, bah alors c'est ce qu'il dit. En tout cas, il dit qu'il ne sait pas qui c'est. Il s'appelle Olivier sur Facebook. Il intervient, ça lui arrive dans les médias, sous le prénom d'Olivier, mais on n'en sait pas plus.
Très concrètement, Pierre, il demande quoi, ce collectif national des contrôleurs ?
Alors d'abord, ils expriment clairement une colère, hein, quelque chose qui montait depuis longtemps en interne, mais qu'on entend, c'est vrai, à chaque mouvement de grève. Hein, manque de reconnaissance, dégradation des conditions de travail. Je vous propose de réécouter Bruno. Il a 50 ans et travaille depuis 25 ans à la SNCF en tant que chef de bord. C'était à votre micro hier, Pascal, dans Les Auditeurs ont la parole.
Il y a un ras-le-bol qui s'est installé au sein de cette corporation. On a tous une bonne raison aujourd'hui de faire grève dans cette entreprise. On est un peu, enfin, c'est un mouvement de base, c'est un peu les gilets jaunes de la SNCF à un moment donné. À un moment donné, il y a un ras-le-bol qui s'est installé et l'expression de ce ras-le-bol, elle est là. Malheureusement, je comprends tous vos auditeurs qui sont en colère, elle se fait pendant une période de fête. Pour autant, il y a eu des alertes, ça fait des mois, même l'entreprise sait et savait qui allait se passer cette grève. Elle était connue de tous et depuis des mois, tout le monde a prévenu.
Alors, il dit malheureusement, mais c'est évident que c'est exprès que la grève se passe pendant le week-end de Noël pour faire pression, parce que ce qu'il demande également, ce collectif de contrôleurs, c'est des sous. Le nerf de la guerre, évidemment, il réclame 100 euros d'augmentation nette par mois, 1200 euros par an.
Non, mais il dit qu'il y a un ras-le-bol, mais c'est tous les ans qu'il y a un ras-le-bol. Sur les 20 dernières années, il y a eu 15 fois des grèves à Noël, donc c'est tous les ans. C'est ça la vérité de la SNCF.
Le chiffre est vrai.
Et la SNCF n'a pas distribué d'augmentation ces dernières années ?
Si, pourtant, mais pas suffisamment au goût de ce collectif. Ce matin, Jean-Pierre Farandou parlait de 11% d'augmentation sur deux ans. C'était un peu plus de 5% juste avant l'été. C'est environ 6% pour 2023, plus deux primes. 600 euros pour tous les cheminots et une deuxième prime donc de 600 euros, mais uniquement pour les contrôleurs cette fois.
Et alors, hier, et ça sera tout à l'heure, on aura peut-être des contrôleurs, ils regrettaient d'être payés parfois en prime. Mais si vous payez chaque heure de la même manière un travail de nuit ou un travail un dimanche, comme un jeudi à 15h, vous n'aurez plus personne après pour travailler la nuit. Si celui qui travaille la nuit n'a pas une prime, n'est pas récompensé, si toutes les heures sont payées au même prix, par définition, il faut des primes.
C'est sûr que c'est plus difficile de trouver du monde le dimanche quand c'est payé comme le vendredi.
Merci Pierre. Merci Pierre Herbulot pour tous ces détails.
On va parler de Dutronc.
Père et fils. Dutronc, ouais.
Des Dutronc. Mm-hmm. À tout de suite. Vous avez un train, Pierre ? Tout va bien pour vous ?
J'ai loué une voiture.
Vous louez une voiture ? Bah écoutez, vous avez de la chance. D'ailleurs, nous essayons de trouver des solutions pour nos auditeurs. On verra hier si nous avons trouvé une solution, notamment pour Carla, qui habitait Bruxelles et qui souhaiterait rejoindre Marseille. A tout de suite.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Agnès Bonfillon. RTL. Laissez-vous tenter, midi.
La culture se met à table tous les jours dans RTL Midi. Aujourd'hui, rencontre avec Thomas Dutronc.
Il donnait hier soir à l'Accor Arena Paris-Bercy le dernier concert de sa tournée avec son père, Jacques Dutronc. L'occasion d'un entretien bilan avec vous, Steven Bellery. Bonjour.
Bonjour à tous.
Vous avez recroisé Thomas Dutronc.
Oui, le chanteur qui fêtera ses 50 ans en juin prochain m'a reçu chez lui à Paris après 8 mois sur les routes avec son père. Thomas Dutronc commence à réaliser à quel point cette aventure marquera sa vie.
Ça a donné un petit peu le vertige de vivre ces moments-là avec son père sur scène, avec un public fantastique, un groupe de musiciens fantastiques. Enfin, c'était des moments vraiment extraordinaires. Les toutes premières dates ont été très émouvantes. Les gens ont toute une image de lui qui est vraie par certains côtés, mais c'est quelqu'un qui est pas simple et qui gamberge beaucoup. Il veut pas répéter parce qu'il ne sait pas, il aime pas ça, il veut pas travailler entre guillemets le son, les balances, les machins, mais par contre il gamberge comme un dingue, donc c'est un peu particulier, mais c'est vrai qu'au tout début du coup il y avait une espèce de pression, lui était sous pression comme un fou.
C'est le plus grand des vols. Oui, mais c'est un gentleman.
Et puis il fallait le temps surtout qu'il me fasse confiance, ce qui n'était pas du tout gagné, donc ça a été un peu dur à gagner aussi. Quand moi j'ai envie de faire un solo de guitare et qu'il dit mais il y a trop de guitare, il y a tellement de tendresse entre nous, tellement d'amour, il est tellement drôle quoi, c'est vraiment un personnage, il est tellement unique en son genre, ça c'est vraiment incroyable, ça je le savais. Ses chansons sont mythiques, lui-même est un personnage mythique, il est assez incroyable, tu vois, il en impose tellement. Mais là j'ai su chérir tous ces moments uniques et privilégiés avec lui parce que c'est un chanteur fabuleux.
J'aime les de chez Castel, j'aime les filles de chez Régine, j'aime les filles qu'on voit dans Elle, j'aime les filles des magazines, j'aime les filles de chez Renault, j'aime les filles
J'aime les filles version 2022. Leur tournée aurait pu durer encore des mois tant le succès était au rendez-vous. Des dates avaient même été annoncées pour 2023, mais Jacques Dutronc n'a pas souhaité faire durer le plaisir.
ça s'arrête parce que mon père préfère arrêter maintenant. C'est son genre de ne pas en faire trop, il préfère se faire rare et tout ça. Moi, je trouve ça un petit peu dommage. De toute façon, quoi qu'il aurait choisi, il n'aurait pas été content, ça je le connais. Lui, en fait, les concerts, il adore, c'est tout ce qu'il y a autour qui est un petit peu compliqué. Puis c'est vrai qu'il n'est pas rentré chez lui du tout pendant toute la tournée en Corse, donc il est resté sur le continent, c'est pas facile, quoi. C'est vrai que ça... Et puis voilà, il va avoir 80 ans, donc il s'inquiète de ne pas tenir le coup. On a l'impression, nous, d'arrêter en milieu de tournée, si tu veux. Donc, mais je suis sûr qu'il va regretter de ne pas continuer, parce qu'on lui a fait quand même un spectacle aux petits oignons. Il a chanté merveilleusement, une voix vraiment fabuleuse. Et puis sa présence sur scène, quoi, c'est assez mythique et magique, quoi. Bon, voilà, de toute façon, c'est comme ça, hein, donc plein de choses à faire aussi de mon côté.
Le monde entier est un cactus. Il est impossible de s'asseoir. Il y a des cactus, moi je me pique de le savoir. Aïe aïe aïe. Ouh. Aïe aïe.
On entend donc une nouvelle version des cactus réinvention en duo, extraite de l'album Dutronc et Dutronc, qui vient de sortir, Steven.
Ouais, 13 reprises en studio et non en live, des tubes ou des raretés comme Le Responsable ou sur une nappe de restaurant enregistrée en quelques jours à peine. Il faut dire que Thomas Dutronc a dû ruser pour convaincre son paternel de faire ce disque.
On avait prévu 10 jours pour enregistrer les voix en Corse, mi-juin. On avait un trou comme ça pendant la tournée des festivals, sauf qu'il a eu le Covid, mon père. Donc il nous restait plus que 5 jours entre deux dates, et je voulais pas lui dire, parce que sinon il aurait dit non, tout de suite. Donc on lui a rien dit, jusqu'au dernier moment. La veille, on était dans un hôtel, super bel hôtel en Suisse, à Vevey, et on était dans deux chambres à côté, comme ça, avec une petite terrasse. On avait passé des super festivals, on était heureux d'être ensemble, on dînait, on se marrait. Et je lui dis, bah, au fait, demain, tu sais, j'ai un ami qui arrive, on va juste mettre un petit studio dans ma chambre, et juste une demi-heure, tu viens juste pour chanter, tu sais, ce disque. Mais quoi, mais encore ce disque? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de disque? Mais pourquoi faire ce disque? J'y comprends rien. Sinon, mais on s'amuse une demi-heure, une heure, de toute façon, là, on n'a rien à faire. Donc, puis si t'aimes rien à la fin, on fait pas de disque. Et puis voilà, on essaye, tu vois, mais il faut le prendre comme un amusement. Enfin, et il s'est amusé et tout, petit à petit. Alors, au fait, tu te rappelles, je ne suis personne, éternel jusqu'à demain, là. Ah non, pas cette chanson. Non, mais juste essaye une phrase et tout. Puis là, effectivement, on avait réussi à tout faire, ce qu'on voulait lui faire en 4 jours, tu vois. C'est un sacré personnage, quoi.
Le café dans les tasses. Les cafés, les toiles en glace. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5h.
Fatiguée par ses ennuis de santé, Françoise Hardy n'aura pas pu assister au concert de son fils et de celui qui est toujours, on le rappelle, son mari, Steven.
Oui, Françoise Hardy, affaiblie par le cancer du pharynx qu'elle a combattu, mais l'icône ne baisse pas les bras. C'est ce que nous confirme Thomas Dutronc ce midi sur RTL.
Ça a l'air d'aller, elle va pas trop mal. Elle a toujours tous les problèmes, tous les dommages collatéraux des chimiothérapies et des radiothérapies qu'elle a subies qui lui rendent la vie au quotidien très compliquée. Donc c'est pas simple, c'est pas très gai, mais... ça va, ça se maintient. Aucun signal d'alarme pour l'instant, donc on est content.
Je veux mourir dans ton lit, non pas de pleurer-y, mais mourir assoui de tes cajoleries. Amour, tu me tueras.
Quel charme.
À la vie, à l'amour, chanson de Jacques Dutronc préférée de Françoise Hardy, ici chantée par Thomas dans l'album Dutronc et Dutronc qui vient de sortir. Le duo publiera un live dans les prochains mois et ne s'interdit pas, m'a dit Thomas, bah peut-être de faire quelques concerts exceptionnels un de ces jours, pourquoi pas autour des 80 ans de Jacques.
Il a une des choses les plus séduisantes au monde, Jacques Dutronc, c'est la désinvolture. Il ne cherche pas à séduire
ou à bien faire.
Il était d'une beauté dans les années 70-80 total, et il l'est resté d'ailleurs.
Un surdoué.
C'était formidable de les écouter ensemble.
Exactement.
Merci beaucoup, Steven. Il va être 12h59, avant mon avis. Il y aura moins de charme et moins de tendresse avec les auditeurs dans une seconde, parce qu'ils sont un peu... Mais non, mais ils sont en colère.
Tous pour...
Oui, ceux qui peuvent pas prendre de train, ceux qui même prendront le train, mais le pourront-ils ? 12h59, à tout de suite.
RTL Midi.